Vous êtes bien à l'écoute de Fracture, émission aujourd'hui dédiée au Kurdistan, avec deux intervenants. Malheureusement, on a été coupé avec Bakker. Et juste avant de passer une interview sur le Kurdistan irakien, on avait une dernière question à poser à Oriane Verdier. Jean-Pierre, tu avais quelque chose à dire ?
Oui, très rapidement. C'est une remarque, hein, plus. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il est bien évident que l'état de guerre... il a comme effet de détruire les petits embryons de réorganisation sociale qu'il y a. C'est-à-dire que toutes les expérimentations, quelle que soit la profondeur de ces expérimentations et des jugements qui sont portés dessus, il y en a eu quand même des expérimentations, en particulier sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et ben, ces expérimentations, elles sont profondément en danger quand on est dans l'état de guerre.
Oui, bien sûr, elles sont en danger, mais le problème, c'est aussi que les modèles propres, par exemple, si on parle du Kurdistan syrien, le PYD a aussi lui-même finalement éliminé un certain nombre de critères de la démocratie, notamment les partis d'opposition n'avaient pas le droit d'exister au Rojava. Donc le problème, c'est qu'en effet, il est très difficile de mener un projet, mais après, du coup, ça demande aussi une droiture extrême, aussi bien au Kurdistan du Rojava qu'au Kurdistan irakien, puisqu'on voit qu'au Kurdistan irakien, le PDK et l'UPK sont fréquemment accusés de corruption, de maltraitance au niveau des opposants, etc. Donc c'est vrai que c'est très difficile et c'est un challenge à relever et avec brio, et ça demande beaucoup de vertu.
Tout à fait. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va pouvoir. Je suis désolé, il va falloir malheureusement couper court à cette interview, si je puis dire, puisqu'on va devoir donc diffuser l'interview qu'on a fait cet après-midi de Hussein, qui est donc kurde irakien. Mais effectivement, ça confirmera ce que Oriane Verdier vous disiez à l'instant. Et en tout cas, bah, merci à vous de nous avoir accordé un peu de temps. Merci aussi à Bakker de nous avoir accordé du temps. Et je m'excuse auprès de lui pour les soucis techniques qui a fait que nous n'avons pas pu l'avoir plus avant. Mais en tout cas, merci à vous, Oriane Verdier.
Merci, bonne journée.
Et puis, bah, donc voilà, on va s'écouter cette interview de 13 minutes avec Hussein sur la question du Kurdistan irakien.
Pourquoi est-ce qu'on n'entend rien ? Des Kurdes du Kurdistan et de ce qui se passe dans cette partie du monde depuis l'offensive turque en Syrie. Là aujourd'hui on est en interview avec Hussein. Bonjour Hussein.
Bonjour.
Donc Hussein, vous êtes un Kurde, vous irakien, qui êtes en France depuis quelques temps. Et donc on va s'entretenir un petit peu avec vous sur un petit peu plus sur la question des Kurdes en Irak.
D'accord.
Donc tout d'abord, merci à vous d'avoir accepté l'interview.
Avec plaisir.
La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'on parle souvent du Kurdistan au singulier, alors que les Kurdes sont répartis sur plusieurs pays, notamment l'Irak dont vous êtes originaire. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu du Kurdistan irakien ?
Alors, le Kurdistan irakien, au niveau de l'entité politique, est plus en avance par rapport aux autres parties de Kurdistan, à savoir le Kurdistan de l'Iran, de la Syrie et de la Turquie. Le Kurdistan irakien a son propre gouvernement depuis 1991 avec la fameuse, peut-être vous avez entendu, avec la fameuse protection de la communauté internationale à l'époque contre la répression et la violence de régimes basses irakiens. En conséquence, la communauté internationale a créé à l'époque no-fly zone. C'est ce qu'on demande aujourd'hui contre le régime de Erdogan. À l'époque, on a lancé ce projet, c'est-à-dire no-fly zone, en mars 1991. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, au Kurdistan irakien, nous avons un gouvernement ce qu'on appelle le gouvernement autonome.
Oui, donc, c'est une région autonome au sein de l'Irak fédéral, en fait.
Exactement. Et depuis ce jour-là, un tout petit peu pour parler de la situation d'aujourd'hui de Kurdistan irakien, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, cette partie autonome est gérée par deux familles, à savoir la famille de Barzani et la famille de Talabani. ces deux familles ont tout monopolisé, vraiment tout monopolisé et tout accaparé dans cette région. Et quand, à l'époque, elles ne sont pas été d'accord sur le partage du pouvoir et de la richesse de la région, malheureusement, elles ont commencé à déclencher la guerre civile pendant 4 ans. Pendant 4 ans, à l'époque, on avait la blocus des États-Unis sur l'Irak, et nous, encore plus, la blocus des États-Unis et des Irakiens sur le Kurdistan irakien. Donc, encore de blocus. Donc, dans ce moment-là difficile, ils ont déclenché la guerre civile. Et le fruit de cette guerre civile est 14 000 morts. Mm-hmm. 24 000 blessés et des centaines de disparus que jusqu'à même aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Et aujourd'hui, pour avoir, enfin, juste un petit exemple, par exemple, pour avoir n'importe quel poste, un directeur de l'école, ou d'être embauché tout simplement dans un établissement, que ce soit politique, que ce soit administratif, etc., soit il faut adhérer et soutenir une des familles, ou soit on ne pourra jamais l'avoir. Donc,
Oui, en fait, Hussein. Donc, en fait, ce qui s'est passé peu de temps après la fin officielle de la guerre contre Daesh, il y a eu, il me semble, en septembre 2018 ou 17, une très très forte rivalité justement entre les deux branches des Kurdes irakiens. Donc, en fait, là, il s'est un petit peu rejoué à cette époque-là. Donc, il y a à peu près 2 ans, ce qui s'est joué en fait durant des décennies, durant la lutte indépendantiste, si on peut dire, des Kurdes.
Exactement. En fait, ce qui s'est passé en octobre pour les Kurdes, c'est une catastrophe. C'est-à-dire octobre 16 octobre 2017. En fait, les Kurdes, ils ont abandonné les partis de Kurdistan que eux-mêmes, avec ce qu'ils disaient, même eux, ils disaient, avec le sang des Peshmerga, ils ont pu libérer des territoires sous la main de Daesh. Et à cause de cette rivalité qui était entre eux, un des partis a lâché, a trahi le Kurdistan, et l'autre parti, qui était en fait, eux, ils étaient dans la région de Kirkuk, c'est-à-dire l'UPK était dans la région de Kirkuk, qui est une ville pétrolière, mais tout ce qui est les puits pétroliers, c'était PDK, c'est-à-dire la partie de Barzani, ils prenaient toute la richesse. Et eux, ils ont dit, donc, cette partie de Kurdistan, ça sert à rien parce que la richesse n'est pas pour nous. Ils ont abandonné la ville de Kirkuk et ce qu'on appelle le territoire disputé. Ça fait depuis plusieurs décennies, c'est une dispute entre le gouvernement irakien et le gouvernement kurdistan. Donc, ils ont lâché cette partie de Kurdistan parce que la richesse n'était pas pour eux, c'était pour une autre partie. Donc, ils l'ont lâché. Donc, cette rivalité, ça vient, comme j'ai dit, de cet esprit de fratricide à l'époque, que même jusqu'à aujourd'hui c'est présent, et c'était à cause de ça qu'ils ont lâché 4902 territoires de Kurdistan irakien.
D'accord. Donc là, vous nous avez parlé un petit peu des Peshmerga, qui sont donc les forces armées du Kurdistan irakien. Quel a été leur rôle un petit peu durant la guerre contre Daesh, et quel a été le rôle des Kurdes irakiens durant cette guerre?
D'accord. Alors, ça c'est sûr que les forces de Peshmerga faisaient partie de la coalition internationale, et ils ont participé dès le début de la guerre contre Daesh, et ils ont joué un rôle important, mais malheureusement, encore une fois, je dis les forces de Peshmerga, car jusqu'à même aujourd'hui, nous revenons au même sujet, jusqu'à même aujourd'hui, nous avons 2 forces de Peshmerga au Kurdistan irakien, celle de 70, c'est-à-dire la force de 70, ce qu'on appelle, c'est eux, ils l'appellent eux-mêmes, c'est la force de l'UPK, et la force de 80, c'est la force de PDK, qui est la famille de Barzani. Et cela traduit, malheureusement, encore une fois, que jusqu'à présent, l'esprit de fratricide est présent au sang de ces deux parties ou de ces deux familles qui accaparent ou monopolisent le Kurdistan irakien.
Ok, d'accord.
Et même lors de la guerre contre Daesh, qu'on avait le même ennemi l'ennemi commun en face de nous, on n'a pas pu en profiter d'en faire une seule force nationale qui défendra l'entité kurde, car ces deux forces sont là avant tout de défendre l'intérêt des deux familles et des deux parties, et non pas les Kurdes dans l'intégralité.
D'accord, ok. Donc là, justement, puisque vous parlez un petit peu des Kurdes dans leur intégralité, donc là, au regard de l'offensive turque que les Turcs viennent de mener sur les Kurdes de Syrie, donc les Kurdes de Syrie qui, eux, a priori, sont plutôt en fait dans une autre branche, si on peut dire, puisque c'est une branche qui est plutôt proche du PKK de Ocalan, donc des Kurdes de Turquie. Est-ce que à l'heure actuelle, les Kurdes de Syrie peuvent s'attendre à un soutien de quelque forme que ce soit de la part des partis kurdes irakiens, ou tout du moins du Kurdistan irakien?
Malheureusement, à mon avis, pas beaucoup. Par exemple, on va parler de l'effet, ce qu'ils ont fait. Le Parlement de Kurdistan irakien, lundi dernier, il a sorti un communiqué, c'est-à-dire lundi dernier, après tous les pays européens, après même les pays voisins, après les pays arabes, ils ont sorti un communiqué. Ils parlent vraiment craintivement du régime de la Turquie, qu'ils sont contre ce qui se passe, etc. Ils ne parlent pas directement, ils ne parlent pas du tout de ce qu'on parle, par exemple, en Europe, un peu partout dans le monde, par exemple, tout simplement de boycotter les produits turcs. Ils ne parlent pas de tout ça, ils parlent craintivement un tout petit peu de la situation. Mais ce qui est bien, heureusement, l'opinion publique de Kurdistan irakien, ils sont tous descendus dans la rue, dans les grandes villes, dans les petites villes, même dans les villages, ils sont tous descendus, ils sont là comme un peu dans d'autres pays, même en Europe, en France, on a vu qu'on est descendu dans la rue contre ce qui se passe et d'essayer de boycotter, et même maintenant, heureusement, les Kurdes, ils sont en train de boycotter les produits turcs, et depuis deux semaines et demie, quatre vols de Turkish Airlines ont été annulés, heureusement, depuis Soleimani à Ankara à Istanbul.
Oui, donc en fait, il y a probablement peu de... Enfin, de la part des Kurdes syriens, il y a probablement malheureusement peu de soutien à attendre de la part des autorités officielles du Kurdistan irakien.
Oui, ouais. Oui, je crois qu'eux aussi, ils savent, ils ont conscience de cette réalité qui est là, c'est ce qu'on appelle une réalité amère, mais elle est là.
Tout à fait. Et, alors là, la dernière question va un petit peu peut-être s'élargir un petit peu plus à l'Irak, dans le sens où là, récemment, en septembre 2019, même octobre 2019, il y a eu un certain nombre de manifestations qui ont été violemment réprimées en Irak, puisqu'il me semble qu'il y a eu quand même une centaine de morts. Est-ce que ces manifestations, donc nous, ce qu'on a pu en entendre en France, tout du moins, c'était des manifestations contre la vie chère et contre la corruption du régime. Est-ce que ces manifestations ont aussi lieu au Kurdistan, et comment ça se passe à l'heure actuelle en Irak sur ces questions de manifestations?
D'accord. En fait, au sein du gouvernement irakien, il y a vraiment la guerre de pouvoir. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des Kurdes, c'est encore pire au sein du gouvernement irakien et au sein des partis politiques irakiens. Parce que les familles kurdes ou les partis kurdes au pouvoir instrumentalisent le sentiment patriotique kurde. Ouais. En revanche, eux, c'est encore pire. Ils instrumentalisent la religion, la confession, les tribus, la dynastie, etc. Tout ça, c'est encore pire. Donc, il y a la crise politique, il y a la crise économique, il y a la corruption, il y a le problème de l'instabilité, il y a des attentats, il y a des groupes mafieux. Donc ces problèmes-là ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui, ce sont des problèmes accumulés depuis 2003, ou même je peux dire depuis avant 2003, depuis les Américains qui ont mis les pieds en Irak, que ce genre de problème, ça s'accumule jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est au pouvoir, enfin, le Premier ministre, c'est Adel Abdelmahdi. Adel Abdelmahdi, il est connu en étant un chiite au milieu, il n'est pas un chiite extrémiste. Donc maintenant, les autres partis qui chiites, etc., ils ne sont pas d'accord avec la prise position politique de Adel Abdelmahdi envers les Kurdes, envers par exemple l'Iran avec les Kurdes, il est très souple. Avec l'Iran, il n'est pas toujours à l'écoute comme les précédents premiers ministres, et donc tout ça fait que les gens descendent dans la rue, ils demandent leur droit de première nécessité, l'eau, l'électricité, de combattre contre la corruption qui est là depuis longtemps, de problèmes de l'instabilité. Donc c'est une manifestation vraiment légitime, et moi en tant que Kurde, je soutiens, et demain, on va aller manifester avec les jeunes Irakiens devant l'ambassade d'Irak.
Ok, parce que demain, donc, il y a une manifestation qui est prévue, où ça, à Paris ?
Oui, à Paris, devant
l'ambassade d'Irak. Ok, d'accord, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, Hussein, on va terminer cette interview, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
Non, je crois que ça va,
Et donc voilà, c'était donc une interview de Hussein, kurde irakien, qui va nous permettre de conclure un petit peu en retard. On va un petit peu déborder cette émission. Mais donc voilà, donc question kurde, comme on l'a pu le voir, très complexe, puisque en dépit d'un projet unificateur d'un peuple qui est éclaté sur plusieurs pays, on constate qu'il y a énormément de divergences entre différentes factions, différentes orientations politiques. Mais toujours est-il, pour celles et ceux que ça intéresse d'aller plus loin dans le sujet, on conseillera deux ouvrages, à savoir l'ouvrage de Olivier Grosjean, La Révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie, c'est paru à La Découverte. Et on conseillera aussi une bande dessinée, pour ceux qui préfèrent les images homo, une bande dessinée qui s'appelle Kobane Calling, de l'artiste italien Zero Calcare, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Voilà pour nous, c'est fini, on se retrouve le vendredi 8 novembre pour un nouveau direct. Bonne fin de journée. Et à bientôt, au revoir.